Jacques le fataliste et son maître, partie 9. Fourgeot, sans avoir l'air de l'écouter, déliait une petite bourse de chamois. Le chevalier à Fourgeot.
Vous vous moquez, cela nous regarde.
Je m'approche, je tire un petit écu que je glisse au chevalier, qui le donne à la servante en lui passant la main sous le menton. Cependant, Lebrun disait à Fourgeot.
Je vous le défends. Ne conduisez point là ces messieurs.
Monsieur Lebrun, pourquoi donc?
C'est un fripon, c'est un gueux.
Je sais bien que monsieur de Merval, mais à tout péché miséricorde. Et puis, je ne connais que lui qui ait de l'argent pour le moment.
Monsieur Fourgeot, faites comme il vous plaira. Messieurs, je m'en lave les mains.
Monsieur Lebrun, est-ce que vous ne venez pas avec nous?
Moi? Dieu m'en préserve. C'est un infâme que je ne reverrai de ma vie.
Mais sans vous, nous ne finirons rien.
Il est vrai. Allons, mon cher Lebrun. Il s'agit de me servir. Il s'agit d'obliger un galant homme qui est dans la presse. Vous ne me refuserez pas, vous viendrez. Allez chercher un Merval. Moi. Oui, vous viendrez pour moi.
À force de sollicitations, Lebrun se laisse entraîner et nous voilà, lui, Lebrun, le chevalier Mathieu de Fourgeot, en chemin, le chevalier frappant amicalement dans la main de Lebrun et me disant
« C'est le meilleur homme, l'homme du monde le plus officieux, la meilleure connaissance. Je crois que monsieur le chevalier me ferait faire de la fausse monnaie. »
Nous voilà chez Merval. Mathieu de Fourgeot, « Eh bien, qu'en veux-tu dire ?»«
Mathieu de Fourgeot, je veux dire que monsieur le chevalier de Saint-Ouen connaît ces gens-là par nom et surnom, et que c'est un gueux d'intelligence avec toute cette canaille-là. »
Tu pourrais bien avoir raison. Il est impossible de connaître un homme plus doux, plus civil, plus honnête, plus poli, plus humain, plus compatissant, plus désintéressé que monsieur de Merval. Mon âge de majorité et ma solvabilité bien constatée, monsieur de Merval prit un air tout à fait affectueux et triste et nous dit avec le ton de la componction qu'il était au désespoir, qu'il avait été dans cette même matinée obligé de secourir un de ses amis pressé des besoins les plus urgents et qu'il était tout à fait à sec. Puis, s'adressant à moi, il ajouta
« Monsieur, n'ayez point de regret de ne pas être venu plus tôt. J'aurais été affligé de vous refuser, mais je l'aurais fait. L'amitié passe avant tout. »
Nous voilà bien ébahis. Voilà le chevalier, Lebrun même, et Fourgeot aux genoux de Merval, et monsieur de Merval qui leur disait
« Messieurs, vous me connaissez tous. J'aime à obliger et tâche de ne pas gâter les services que je rends en les faisant solliciter, mais... « Foi d'homme d'honneur, il n'y a pas 4 louis dans la maison. »
Moi, je ressemblais, au milieu de ces gens-là, à un patient qui a entendu sa sentence. Je disais au chevalier, « Chevalier, allons-nous-en, puisque ces messieurs ne peuvent rien. » Et le chevalier, me tirant à l'écart,
« Tu n'y penses pas, c'est la veille de sa fête. Je l'ai prévenue, je t'en avertis, et elle s'attend à une galanterie de ta part. Tu la connais. » Ce n'est pas qu'elle soit intéressée, mais elle est comme les autres qui n'aiment pas à être trompées dans leur attente. Elle s'en sera déjà vantée à son père, à sa mère, à ses tantes, à ses amis, et, après cela, n'avoir rien à leur montrer, cela est mortifiant.
Et puis le voilà revenu à Merval et le pressant plus vivement encore. Merval, après s'être bien fait tirailler, dit
« J'ai la plus sotte âme du monde. » « Je ne saurais voir les gens en peine. Je rêve. Et il me vient une idée. »«
Et quelle idée ?
Pourquoi ne prendriez-vous pas des marchandises ?
En avez-vous ?
Non, mais je connais une femme qui vous en fournira. Une brave femme, une honnête femme. »«
Oui, mais qui nous fournira des guenilles qu'elle nous vendra au poids de l'or et dont nous ne retirerons rien ?
Point du tout. Ce seront de très belles étoffes, des bijoux en or et en argent. » Des soieries de toute espèce, des perles, quelques pierreries. Il y aura très peu de choses à perdre sur ces effets. C'est une bonne créature à se contenter de peu pourvu qu'elle ait ses sûretés. Ce sont des marchandises d'affaires qui lui reviennent à très bon prix. Au reste, voyez-les, la vue ne vous en coûtera rien. »
Je représentai à Merval et au chevalier que mon état n'était pas de vendre et que, quand cet arrangement ne me répugnerait pas, ma position ne me laisserait pas le temps d'en tirer parti. Les officiers Lebrun et Mathieu de Fourgeot dirent tous à la fois « Qu'à cela ne tienne, nous vendrons pour vous, c'est l'embarras d'une demi-journée. » Et la séance fut remise à l'après-midi chez M. de Merval qui, me frappant doucement sur l'épaule, me disait d'un ton onctueux et pénétré
« Monsieur, je suis charmé de vous obliger, mais croyez-moi, faites rarement de pareils emprunts, ils finissent toujours par ruiner. Ce serait un miracle dans ce pays-ci que vous eussiez encore à traiter une fois avec d'aussi honnêtes gens que messieurs Lebrun et Mathieu de Fourgeot. »
Lebrun et Fourgeot de Mathieu ou Mathieu de Fourgeot le remercièrent en s'inclinant et lui disant qu'il avait bien de la bonté, qu'ils avaient tâché jusqu'à présent de faire leur petit commerce en conscience et qu'il n'y avait pas de quoi les louer.
« Vous vous trompez, messieurs, car qui est-ce qui a de la conscience à présent ? Demandez à monsieur le chevalier de Saint-Ouen qui doit en savoir quelque chose. »
Nous voilà sortis de chez Merval qui nous demande du haut de son escalier s'il peut compter sur nous et faire avertir sa marchande. Nous lui répondons que oui. Et nous allons tous quatre dîner dans une auberge voisine en attendant l'heure du rendez-vous. Ce fut Mathieu de Fourgeot qui commanda le dîner et qui le commanda bon. Au dessert, deux marmottes s'approchèrent de notre table avec leurs vielles. Lebrun les fit asseoir, on les fit boire, on les fit jaser, on les fit jouer. Tandis que mes trois convives s'amusaient à en chiffonner une, sa compagne, qui était à côté de moi, me dit tout bas « Monsieur, vous êtes là en bien mauvaise compagnie. Il n'y a pas un de ces gens-là qui n'ait son nom sur le livre rouge. » Nous quittâmes l'auberge à l'heure indiquée et nous nous rendîmes chez Merval. J'oubliais de te dire que ce dîner épuisa la bourse du chevalier et la mienne, et qu'en chemin, Lebrun dit au chevalier, qui me le redit, que Mathieu de Fourgeot exigeait 10 louis pour sa commission, que c'était le moins qu'on pût lui donner, que s'il était satisfait de nous, nous aurions les marchandises à meilleur prix, et que nous retrouverions aisément cette somme sur la vente. Nous voilà chez Merval, où sa marchande nous avait précédés avec ses marchandises. Mademoiselle Bridois, c'est son nom, nous accabla de politesse et de révérence, et nous étala des étoffes, des toiles, des dentelles, des bagues, des diamants, des boîtes d'or. Nous prîmes le tout. Ce furent Lebrun, Mathieu de Fourgeot et le chevalier qui mirent le prix aux choses, et c'est Merval qui tenait la plume. Le total se monta à 19 775 livres, dont j'allais faire mon billet, lorsque Mademoiselle Bridois me dit, en faisant une révérence, car elle ne s'adressait jamais à personne sans le révérencier, « Monsieur, votre dessein est de payer vos billets à leurs échéances ?»« Assurément, lui répondis-je. » « En ce cas, me répliqua-t-elle, il vous est indifférent de me faire des billets ou des lettres de change. » Le mot de lettres de change me fit pâlir. Le chevalier s'en aperçut et dit à Mademoiselle Bridois
« Des lettres de change, mademoiselle, mais ces lettres de change courront et l'on ne sait en quelle main elles pourraient aller. »
« Vous vous moquez, monsieur le chevalier. On sait un peu les égards dus aux personnes de votre rang. » Et puis une révérence. « On tient ces papiers-là dans son portefeuille. On ne les produit qu'à temps. Tenez, voyez. » Et puis une révérence. Elle tire son portefeuille de sa poche. Elle lit une multitude de noms de tout état et de toutes conditions. Le chevalier s'était approché de moi et me disait
« Des lettres de change, cela est diablement sérieux. Vois ce que tu veux faire. Cette femme me paraît honnête, et puis, avant l'échéance, tu seras en fond où j'y serai. »
Et vous signâtes les lettres de change ?
Il est vrai.
C'est l'usage des pères, lorsque leurs enfants partent pour la capitale, de leur faire un petit sermon. Ne fréquentez point mauvaise compagnie, rendez-vous agréable à vos supérieurs, par de l'exactitude à remplir vos devoirs, conservez votre religion, fuyez les filles de mauvaise vie, les chevaliers d'industrie, et surtout, ne signez jamais de lettres de change.
Que veux-tu ? Je fis comme les autres. La première chose que j'oubliais, ce fut la leçon de mon père. Me voilà pourvu de marchandises à vendre, mais c'est de l'argent qu'il nous fallait. Il y avait quelques paires de manchettes à dentelle très belles. Le chevalier s'en saisit au prix coûtant en me disant
« Voilà déjà une partie de tes emplettes sur laquelle tu ne perdras rien. »
Mathieu de Fourgeot prit une montre et deux boîtes d'or dont il allait sur le champ m'apporter la valeur. Lebrun prit en dépôt le reste chez lui. Je mis dans ma poche une superbe garniture avec les manchettes. C'était une des fleurs du bouquet que j'avais à donner. Mathieu de Fourgeot revint en un clin d'œil avec 60 louis. De ces 60 louis, il en retint 10 pour lui, et je reçus les 50 autres. Il me dit qu'il n'avait vendu ni la montre ni les deux boîtes, mais qu'il les avait mises en gage.
En gage ?
Oui.
Je sais où.
Où ?
Chez la demoiselle Révérence, la Bridoie.
Il est vrai. Avec la paire de manchettes et sa garniture, je pris encore une jolie bague avec une boîte à mouches doublée d'or. J'avais 50 louis dans ma bourse et nous étions, le chevalier et moi, de la plus belle gaieté.
Voilà qui est fort bien. Il n'y a dans tout ceci qu'une chose qui m'intrigue. C'est le désintéressement du sieur Lebrun. Est-ce que celui-là n'eut aucune part à la dépouille ?
Allons donc, Jacques, vous vous moquez. Vous ne connaissez pas Monsieur Lebrun. Je lui proposais de reconnaître ses bons offices. Il se fâcha. Il me répondit que je le prenais apparemment pour un Mathieu de Fourgeot, qu'il n'avait jamais tendu la main.
« Voilà, mon cher Lebrun !»
s'écria le chevalier.
« C'est toujours lui-même, mais nous rougirions qu'il fût plus honnête que nous. »
Et à l'instant, il prit parmi nos marchandises 2 douzaines de mouchoirs, une pièce de mousseline qu'il lui fit accepter pour sa femme et pour sa fille. Lebrun se mit à considérer les mouchoirs qui lui parurent si beaux, la mousseline qu'il trouva si fine, cela lui était offert de si bonne grâce, il avait une si prochaine occasion de prendre sa revanche avec nous par la vente des effets qui restaient entre ses mains, qu'il se laissa vaincre. Et nous voilà partis. Et nous acheminant à toutes jambes de fiacre vers la demeure de celle que j'aimais, et à qui la garniture, les manchettes et la bague étaient destinées. Le présent réussit à merveille. On fut charmante. On essaya sur le champ la garniture et les manchettes. La bague semblait avoir été faite pour le doigt. On soupa, et gaiement, comme tu penses bien.
Et vous couchâtes là ?
Non.
Ce fut donc le chevalier ?
Je le crois.
Du train dont on vous menait, vos 50 louis ne durèrent pas longtemps ?
Non. Au bout de 8 jours, nous nous rendîmes chez Lebrun pour voir ce que le reste de nos effets avait produit.
Rien ou peu de choses. Lebrun fut triste, il se déchaîna contre le Merval et la demoiselle aux révérences, les appela gueux, infâmes, fripons, jura de rechef de n'avoir jamais rien à démêler avec eux, et vous remit 7 à 800 francs.
À peu près. 870 livres.
Ainsi, si je sais un peu calculer, 870 livres de Lebrun, 50 louis de Merval ou de Fourgeot, la garniture, les manchettes et la bague, allons, encore 50 louis, et voilà ce qui vous est rentré de vos 19 760 et 13 livres en marchandises. Diable ! Cela est honnête ! Merval avait raison. On n'a pas tous les jours à traiter avec d'aussi dignes gens.
Tu oublies les manchettes prises au prix coûtant par le chevalier.
C'est que le chevalier ne vous en a jamais parlé.
J'en conviens. Et les 2 boîtes d'or et la montre mise en gage par Mathieu, tu n'en dis rien.
C'est que je ne sais qu'en dire.
Cependant, l'échéance des lettres de change arriva.
Et vos fonds ni ceux du chevalier n'arrivèrent point.
Je fus obligé de me cacher. On instruisit mes parents. Un de mes oncles vint à Paris. Il présenta un mémoire à la police contre tous ses fripons. Ce mémoire fut renvoyé à un des commis. Ce commis était un protecteur gagé de Merval. On répondit que, l'affaire étant en justice réglée, la police n'y pouvait rien. Le prêteur sur gage, à qui Mathieu avait confié les deux boîtes, fit assigner Mathieu. J'intervins dans ce procès. Les frais de justice furent si énormes qu'après la vente de la montre et des boîtes, il s'en manquait encore 500 ou 600 francs qu'il n'y eut de quoi tout payer. Vous ne croirez pas cela, lecteur. Et si je vous disais qu'un limonadier, décédé il y a quelque temps dans mon voisinage, laissa deux pauvres orphelins en bas âge? Le commissaire se transporte chez le défunt, on appose un scellé, on lève ce scellé, on fait un inventaire, une vente. La vente produit 800 à 900 francs. De ces 900 francs, les frais de justice prélevés, il reste 2 sous pour chaque orphelin. On leur met à chacun ces 2 sous dans la main et on les conduit à l'hôpital. Cela fait horreur.
Et cela dure.
Mon père mourut dans ces entrefaites. J'acquittai les lettres de change et je sortis de ma retraite où, pour l'honneur du chevalier et de mon ami, j'avouerai qu'ils me tinrent assez fidèle compagnie.
Et vous voilà tout aussi féru qu'auparavant du chevalier et de votre belle vous tenant la dragée plus haute que jamais.
Et pourquoi cela, Jacques?
Pourquoi? C'est que maître de votre personne et possesseur d'une fortune honnête, il fallait faire de vous un sot complet, un mari.
Ma foi, je crois que c'était leur projet, mais il ne leur réussit pas.
Vous êtes bien heureux, ou ils ont été bien maladroits.
Mais il me semble que ta voix est moins rauque et que tu parles plus librement.
Cela vous semble, mais cela n'est pas.
Tu ne pourrais donc pas reprendre l'histoire de tes amours?
Non.
Et ton avis est que je continue l'histoire des miennes?
C'est mon avis de faire une pause et de hausser la gourde.
Comment? Avec ton mal de gorge, tu as fait remplir ta gourde?
Oui, mais de partout les diables, c'est de la tisane. Aussi je n'ai point d'idée, je suis bête. Et tant qu'il n'y aura dans la gourde que de la tisane, je serai bête.
Que fais-tu?
Je verse la tisane à terre. Je crains qu'elle ne nous porte malheur.
Tu es fou.
Sage ou fou, il n'en restera pas la valeur d'une larme dans la gourde.
Tandis que Jacques vide à terre sa gourde, son maître regarde à sa montre, ouvre sa tabatière et se dispose à continuer l'histoire de ses amours. Et moi, lecteur, je suis tenté de lui fermer la bouche en lui montrant de loin où un vieux militaire sur son cheval, le dos voûté et s'acheminant à grands pas, où une jeune paysanne en petit chapeau de paille, en cotillon rouge, faisant son chemin à pied ou sur un âne. Et pourquoi le vieux militaire ne serait-il pas ou le capitaine de Jacques, ou le camarade de son capitaine? Mais il est mort. Vous le croyez? Pourquoi la jeune paysanne ne serait-elle pas ou la dame Suzon, ou la dame Marguerite, ou l'hôtesse du grand cerf, ou la mère Jeanne, ou même Denise, sa fille? Un faiseur de romans n'y manquerait pas, mais je n'aime pas les romans, à moins que ce ne soit ceux de Richardson. Je fais l'histoire. Cette histoire intéressera ou n'intéressera pas. C'est le moindre de mes soucis. Mon projet est d'être vrai. Je l'ai rempli. Ainsi, je ne ferai point revenir frère Jean de Lisbonne. Ce gros prieur qui vient à nous dans un cabriolet, à côté d'une jeune et jolie femme, ce ne sera point l'abbé Hudson. Mais l'abbé Hudson est mort, vous le croyez? Avez-vous assisté à ses obsèques? Non. Vous ne l'avez point vu mettre en terre? Non. Il est donc mort ou vivant, comme il me plaira. Il ne tiendrait qu'à moi d'arrêter ce cabriolet et d'en faire sortir avec le prieur et sa compagne de voyage une suite d'événements en conséquence desquels vous ne sauriez ni les amours de Jacques, ni celles de son maître. Mais je dédaigne toutes ces ressources-là. Je vois seulement qu'avec un peu d'imagination et de style, rien n'est plus aisé que de filer un roman. Demeurons dans le vrai, et, en attendant que le mal de gorge de Jacques se passe, laissons parler son maître. Un matin, le chevalier m'a paru fort triste. C'était le lendemain d'un jour que nous avions passé à la campagne, le chevalier, son ami ou la mienne, ou peut-être de tous les deux, le père, la mère, les tantes, les cousines et moi. Il me demanda si je n'avais commis aucune indiscrétion qui eût éclairé les parents sur ma passion. Il m'apprit que le père et la mère, alarmés de mes assiduités, avaient fait des questions à leur fille, que si j'avais des vues honnêtes, rien n'était plus simple que de les avouer. Qu'on se ferait honneur de me recevoir à ces conditions, mais que si je ne m'expliquais pas nettement sous quinzaine, on me prierait de cesser des visites qui se remarquaient, sur lesquelles on tenait des propos et qui faisaient tort à leur fille en écartant d'elle des partis avantageux qui pouvaient se présenter sans la crainte d'un refus.
« Eh bien, mon maître, Jacques a-t-il du nez ?»
Le chevalier ajouta,
« Dans une quinzaine. Le terme est assez court. Vous aimez, on vous aime. Dans 15 jours, que ferez-vous ?»
Je répondis net au chevalier que je me retirerais.
« Vous vous retirerez ? Vous n'aimez donc pas ?»«
J'aime, et beaucoup. Mais j'ai des parents, un nom, un état, des prétentions, et je ne me résoudrai jamais à enfouir tous ces avantages dans le magasin d'une petite bourgeoise. »
Et leur déclarerai-je cela ?
Si vous le voulez. Mais, chevalier, la subite et scrupuleuse délicatesse de ces gens-là m'étonne. Ils ont permis à leur fille d'accepter mes cadeaux. Ils m'ont laissé 20 fois en tête à tête avec elle. Elle court les bals, les assemblées, les spectacles, les promenades aux champs et à la ville, avec le premier qui a un bon équipage à lui offrir. Ils dorment profondément tandis qu'on fait de la musique ou de la conversation chez elle. Tu fréquentes dans la maison tant qu'il te plaît, et, entre nous, chevalier, quand tu es admis dans une maison, on peut y en admettre un autre. Leur fille est notée. Je ne croirais pas, je ne nierais pas tout ce qu'on en dit, mais tu conviendras que ces parents-là auraient pu s'aviser plutôt d'être jaloux de l'honneur de leur enfant. Veux-tu que je te parle vrai ? On m'a pris pour une espèce de benêt qu'on se promettait de mener par le nez au pied du curé de la paroisse. Ils se sont trompés. Je trouve mademoiselle Agathe charmante, j'en ai la tête tournée, et il y paraît, je crois, aux effroyables dépenses que j'ai faites pour elle. Je ne refuse pas de continuer, mais encore faut-il que ce soit avec la certitude de la trouver un peu moins sévère à l'avenir. Mon projet n'est pas de perdre éternellement à ses genoux un temps, une fortune et des soupirs que je pourrais employer plus utilement ailleurs. Tu diras ces derniers mots à mademoiselle Agathe et tout ce qui les a précédés à ses parents. Il faut que notre liaison cesse ou que je sois admis sur un nouveau pied et que mademoiselle Agathe fasse de moi quelque chose de mieux que ce qu'elle en a fait jusqu'à présent. Lorsque vous m'introduisîtes chez elle, convenez, chevalier, que vous me fîtes espérer des facilités que je n'ai point trouvées. Chevalier, vous m'en avez un peu imposé.
Ma foi, je m'en suis un peu imposé le premier à moi-même. Qui diable aurait jamais imaginé qu'avec l'air leste, le ton libre et gai de cette jeune folle, ce serait un petit dragon de vertu.
Comment diable, monsieur, cela est bien fort. Vous avez donc été brave une fois dans votre vie ?
Il y a des jours comme cela. J'avais sur le cœur l'aventure des usuriers, ma retraite à Saint-Jean-de-Latran, devant la demoiselle Bridois, et plus que tout, les rigueurs de mademoiselle Agathe. J'étais un peu là d'être lanternée.
Et d'après ce courageux discours, adressé à votre cher ami le chevalier de Saint-Ouen, que fîtes-vous ?
Je tins parole. Je cessai mes visites.
Bravo, bravo, mio caro maestro !
Il se passa une quinzaine sans que j'entendisse parler de rien, si ce n'était par le chevalier qui m'instruisait fidèlement des effets de mon absence dans la famille et qui m'encourageait à tenir ferme. Il me disait
« On commence à s'étonner, on se regarde, on parle, on se questionne sur les sujets de mécontentement qu'on a pu te donner. La petite fille joue la dignité. Elle le dit avec une indifférence affectée, à travers laquelle on voit aisément qu'elle est piquée. »
On ne voit plus ce monsieur, c'est qu'apparemment il ne veut plus qu'on le voie. À la bonne heure, c'est son affaire.
Et puis elle fait une pirouette, elle se met à chantonner, elle va à la fenêtre, elle revient, mais les yeux rouges. Tout le monde s'aperçoit qu'elle a pleuré.
qu'elle a pleuré ?
Ensuite, elle s'assied, elle prend son ouvrage, elle veut travailler, mais elle ne travaille pas. On cause, elle se tait. On cherche à l'égayer, elle prend de l'humeur. On lui propose un jeu, une promenade, un spectacle. Elle accepte, et lorsque tout est prêt, c'est une autre chose qui lui plaît et qui lui déplaît le moment d'après. Oh, ne voilà-t-il pas que tu te troubles ? Je ne te dirai plus rien.
Mais, chevalier, vous croyez donc que si je reparaissais ?
Je crois que tu serais un sot. Il faut tenir bon, il faut avoir du courage. Si tu reviens sans être rappelé, tu es perdu. Il faut apprendre à vivre à ce petit monde-là.
Mais si l'on ne me rappelle pas ?
On te rappellera.
Si l'on tarde beaucoup à me rappeler ?
On te rappellera bientôt. Peste ! Un homme comme toi ne se remplace pas aisément. Si tu reviens de toi-même, on te boudera. On te fera payer chèrement ton incartade. On t'imposera la loi qu'on voudra t'imposer. Il faudra t'y soumettre. Il faudra fléchir le genou. Veux-tu être le maître ou l'esclave ? Et l'esclave le plus malmené ? Choisis ! À te parler vrai, ton procédé a été un peu leste. On n'en peut pas conclure un homme bien épris, mais ce qui est fait est fait. Et s'il est possible d'en tirer bon parti, il n'y faut pas manquer.
Elle a pleuré ?
Eh bien, elle a pleuré. Il vaut encore mieux qu'elle pleure que toi.
Mais si l'on ne me rappelle pas ?
On te rappellera, te dis-je. Lorsque j'arrive, je ne parle pas plus de toi que si tu n'existais pas. On me tourne, je me laisse tourner. Enfin, on me demande si je t'ai vu. Je réponds indifféremment, tantôt oui, tantôt non. Puis on parle d'autre chose, mais on ne tarde pas de revenir à ton éclipse. Le premier mot vient ou du père ou de la mère, ou de la tante, ou d'Agathe, et l'on dit. Après tous les égards que nous avons eus pour lui, l'intérêt que nous avons tous pris à sa dernière affaire, les amitiés que ma nièce lui a faites, les politesses dont je l'ai comblé, tant de protestations d'attachement que nous en avons reçues. Et puis, fiez-vous aux hommes. Après cela, ouvrez votre maison à ceux qui se présentent. Croyez aux amis.
Et Agathe ?
La consternation y est. C'est moi qui t'en assure.
Et Agathe ?
Agathe me tire à l'écart et dit
« Chevalier, concevez-vous quelque chose à votre ami ? Vous m'avez assuré tant de fois que j'en étais aimée. » Vous le croyez sans doute. Et pourquoi ne l'auriez-vous pas cru ? Je le croyais bien, moi. »
Et puis, elle s'interrompt, sa voix s'altère, ses yeux se mouillent. « Eh bien, ne voilà-t-il pas que tu en fais autant ? Je ne te dirai plus rien, cela est décidé. Je vois ce que tu désires, mais il n'en sera rien, absolument rien. Puisque tu as fait la sottise de te retirer sans rime ni raison, je ne veux pas que tu la doubles en allant te jeter à leur tête. » Il faut tirer parti de cet incident pour avancer tes affaires avec mademoiselle Agathe. Il faut qu'elle voie qu'elle ne te tient pas si bien qu'elle ne puisse te perdre, à moins qu'elle ne s'y prenne mieux pour te garder. Après ce que tu as fait, en être encore à lui baiser la main. Mais là, chevalier, la main sur la conscience, nous sommes amis, et tu peux sans indiscrétion t'expliquer avec moi. Vrai ? Tu n'en as jamais rien obtenu ?
Non.
Tu mens. Tu fais le délicat.
Je le ferais peut-être si j'en avais raison, mais je te jure que je n'ai pas le bonheur de mentir.
Cela est inconcevable, car enfin tu n'es pas maladroit. Quoi ? On n'a pas eu le moindre petit moment de faiblesse ?
Non.
C'est qu'il sera venu que tu ne l'auras pas aperçu et que tu l'auras manqué. J'ai peur que tu n'aies été un peu benêt. Les gens honnêtes, délicats et tendres comme toi y sont sujets.
Mais vous, chevalier, lui dis-je, que faites-vous là ?
« Rien. »«
Vous n'avez point eu de prétention ?»«
Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Elles ont même duré assez longtemps. Mais tu es venu, tu as vu et tu as vaincu. »« Je me suis aperçu qu'on te regardait beaucoup et qu'on ne me regardait plus guère. »« Je me le suis tenu pour dit. »« Nous sommes restés bons amis. On me confie ses petites pensées. »« On suit quelquefois mes conseils et, faute de mieux, j'ai accepté le rôle de subalterne auquel tu m'as réduit. »«
Monsieur, deux choses. » L'une, c'est que je n'ai jamais pu suivre mon histoire sans qu'un diable ou un autre m'interrompît, et que la vôtre va tout de suite. Voilà le train de la vie. L'un court à travers les ronces sans se piquer, l'autre a beau regarder où il met le pied,
Il trouve des ronces dans le plus beau chemin et arrive au gîte écorché tout vif.
« Est-ce que tu as oublié ton refrain ? Et le grand rouleau et l'écriture d'en haut ?»«
L'autre chose, c'est que je persiste dans l'idée que votre chevalier de Saint-Ouen est un grand fripon et qu'après avoir partagé votre argent avec les usuriers Lebrun, Merval, Mathieu de Fourgeot ou Fourgeot de Mathieu, Labridois, il cherche à vous embâter de sa maîtresse, en tout bien et tout honneur s'entend, par devant notaire et curé, afin de partager encore avec vous votre femme. Ah oui, la gorge !
Sais-tu ce que tu fais là ? Une chose très commune et très impertinente.
J'en suis bien capable.
Tu te plains d'avoir été interrompu, et tu interromps.
C'est l'effet du mauvais exemple que vous m'avez donné. Une mère veut être galante et veut que sa fille soit sage. Un père veut être dissipateur et veut que son fils soit économe. Un maître veut interrompre son valet, l'interrompre tant qu'il lui plaît et non pas être interrompu.
Lecteur, est-ce que vous ne craignez pas de voir se renouveler ici la scène de l'auberge où l'un criait « Tu descendras », l'autre « Je ne descendrai pas ». À quoi tient-il que je ne vous fasse entendre « J'interromprai, tu n'interrompras pas » Il est certain que, pour peu que j'agace Jacques ou son maître, voilà la querelle engagée. Et si je l'engage une fois, qui sait comment elle finira ? Mais la vérité est que Jacques répondit modestement à son maître
« Monsieur, je ne vous interromps pas, mais je cause avec vous, comme vous m'en avez donné la permission. »
« Passe, mais ce n'est pas tout. »
Quelle autre incongruité puis-je avoir commise ?
Tu vas anticipant sur le raconteur et tu lui ôtes le plaisir qu'il s'est promis de ta surprise, en sorte qu'ayant, par une ostentation de sagacité très déplacée, deviné ce qu'il avait à te dire, il ne lui reste plus qu'à se taire et je me tais.
Ah, mon maître !
Que maudits soient les gens d'esprit !
D'accord, mais vous n'aurez pas la cruauté.
Conviens du moins que tu le mériterais.
D'accord, mais avec tout cela, vous regarderez à votre montre l'heure qu'il est, vous prendrez votre prise de tabac, votre humeur cessera, et vous continuerez votre histoire.
Ce drôle-là fait de moi tout ce qu'il veut. Quelques jours après cet entretien avec le chevalier, il reparut chez moi. Il avait l'air triomphant.
« Eh bien, l'ami, me dit-il, une autre fois croirez-vous à mes almanachs ? Je vous l'avais bien dit, nous sommes les plus forts. Et voici une lettre de la petite. Oui, une lettre d'elle. »
Cette lettre était fort douce. Des reproches, des plaintes, etc. Et me voilà réinstallé dans la maison. Lecteur, vous suspendez ici votre lecture. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je crois vous comprendre. Vous voudriez voir cette lettre. Madame Riccoboni n'aurait pas manqué de vous la montrer. Et celle que Madame de la Pommeraye dicta aux deux dévotes, je suis sûr que vous l'avez regrettée. Quoiqu'elle fût autrement difficile à faire que celle d'Agathe, et que je ne présume pas infiniment de mon talent, je crois que je m'en serais tiré, mais elle n'aurait pas été originale. S'aurait été comme ces sublimes harangues de Tite-Live dans son Histoire de Rome ou du cardinal Bentivoglio dans ses Guerres de Flandre. On les lit avec plaisir, mais elles détruisent l'illusion. Un historien qui suppose à ces personnages des discours qu'ils n'ont pas tenus peut aussi leur supposer des actions qu'ils n'ont pas faites. Je vous supplie donc de bien vouloir vous passer de ces deux lettres et de continuer votre lecture. On me demanda raison de mon éclipse, je dis ce que je voulus. On se contenta de ce que je dis et tout reprit son train accoutumé.
C'est-à-dire que vous continuâtes vos dépenses et que vos affaires amoureuses n'en avançaient pas davantage.
Le chevalier m'en demandait des nouvelles et avait l'air de s'en impatienter.
Et il s'en impatientait peut-être réellement.
Et pourquoi cela ?
Pourquoi ? Parce qu'il...
« Achève donc !»«
Je m'en garderai bien. Il faut laisser au compteur. »«
Mes leçons te profitent, je m'en réjouis. » Un jour, le chevalier me proposa une promenade en tête-à-tête. nous allâmes passer la journée à la campagne. Nous partîmes de bonne heure. Nous dînâmes à l'auberge, nous y soupâmes, le vin était excellent. Nous en bûmes beaucoup, causant de gouvernement, de religion et de galanterie. Jamais le chevalier ne m'avait marqué tant de confiance, tant d'amitié. Il m'avait raconté toutes les aventures de sa vie, avec la plus incroyable franchise, ne me scellant ni le bien ni le mal. Il buvait, il m'embrassait, il pleurait de tendresse. Je buvais, je l'embrassais, je pleurais à mon tour. Il n'y avait dans toute sa conduite passée qu'une seule action qu'il se reprocha. Il en porterait le remords jusqu'au tombeau. « Chevalier, confessez-vous-en à votre ami, cela vous soulagera. Eh bien, de quoi s'agit-il ? De quelques peccadilles dont votre délicatesse vous exagère la valeur ?»«
Non, non !»
s'écriait le chevalier en penchant sa tête sur ses deux mains et se couvrant le visage de honte.
« C'est une noirceur impardonnable. Le croirez-vous ? Moi, le chevalier de Saint-Ouen a une fois trompé, oui, trompé son ami. »
Et comment cela s'est-il fait ?
Hélas, nous fréquentions l'un et l'autre dans la même maison, comme vous et moi. Il y avait une jeune fille comme Mademoiselle Agathe. Il en était amoureux, et moi j'en étais aimée. Il se ruinait en dépenses pour elle, et c'est moi qui jouissais de ses faveurs. Je n'ai jamais eu le courage de lui en faire l'aveu, mais si nous nous retrouvons ensemble, je lui dirai tout. Cet effroyable secret que je porte au fond de mon cœur l'accable, c'est un fardeau dont il faut absolument que je me délivre.
Chevalier, vous ferez bien.
Vous me le conseillez ?
Assurément, je vous le conseille.
Et comment croyez-vous que mon ami prenne la chose ?
S'il est votre ami, s'il est juste, il trouvera votre excuse en lui-même. Il sera touché de votre franchise et de votre repentir. Il jettera ses bras autour de votre cou. Il fera ce que je ferais à sa place.
Vous le croyez ?
Je le crois.
Et c'est ainsi que vous en useriez ?
Je n'en doute pas. À l'instant, le chevalier se lève, s'avance vers moi, les larmes aux yeux, les deux bras ouverts, et me dit
« Mon ami, embrassez-moi donc !»«
Quoi, chevalier ? » lui dis-je. « C'est vous ? C'est moi ? C'est cette coquine d'Agathe ?»«
Oui, mon ami, je vous rends encore votre parole. Vous êtes le maître d'en agir avec moi comme il vous plaira. Si vous pensez, comme moi, que mon offense soit sans excuse, ne m'excusez point. Levez-vous, quittez-moi, ne me revoyez jamais qu'avec mépris. Et abandonnez-moi à ma douleur et à ma honte. Ah, mon ami, si vous saviez tout l'empire que la petite scélérate avait pris sur mon cœur. Je suis né honnête. Jugez combien j'ai dû souffrir du rôle indigne auquel je me suis abaissé. Combien de fois j'ai détourné mes yeux de dessus elle pour les attacher sur vous, en gémissant de sa trahison et de la mienne. Il est inouï que vous ne vous en soyez jamais aperçu.
Cependant, j'étais immobile comme un terme pétrifié. À peine entendais-je le discours du chevalier. Je m'écriais. « Ah, l'indigne ! Ah, chevalier, vous ! Vous, mon ami !»
Oui, je l'étais, et je le suis encore, puisque je dispose, pour vous tirer des liens de cette créature, d'un secret qui est plus le sien que le mien. Ce qui me désespère, c'est que vous n'en ayez rien obtenu qui vous dédommage de tout ce que vous avez fait pour elle. »
Ici, Jacques se met à rire et à siffler. Mais c'est la vérité dans le vin de coller. Lecteur, vous ne savez pas ce que vous dites. À force de vouloir montrer de l'esprit, vous n'êtes qu'une bête. C'est si peu la vérité dans le vin que tout au contraire, c'est la fausseté dans le vin. Je vous ai dit une grossièreté, j'en suis fâché. Et je vous en demande pardon. Ma colère tomba peu à peu. J'embrassai le chevalier. Il se remit sur sa chaise, les coudes appuyés sur la table, les poings fermés sur les yeux. Il n'osait me regarder.
Il était si affligé. Et vous eûtes la bonté de le consoler.
Et Jacques de siffler encore. Le parti qui me parut le meilleur, ce fut de tourner la chose en plaisanterie. À chaque propos gai, le chevalier confondu me disait
« Il n'y a point d'homme comme vous. Vous êtes unique. Vous valez 100 fois mieux que moi. Je doute que j'eusse eu la générosité ou la force de vous pardonner une pareille injure et vous en plaisanter. Cela est sans exemple. Mon ami, que ferais-je jamais qui puisse réparer ? Ah, non, non, cela ne se répare pas. Jamais, jamais je n'oublierai ni mon crime ni votre indulgence. Ce sont deux traits profondément gravés là. Je me rappellerai l'un pour me détester, l'autre pour vous admirer, pour redoubler d'attachement pour vous. »
« Allons, chevalier, vous n'y pensez pas. Vous vous surfaites votre action et la mienne. Buvons à votre santé. Chevalier, à la mienne donc, puisque vous ne voulez pas que ce soit à la vôtre. » Le chevalier peu à peu reprit courage. Il me raconta tous les détails de sa trahison, s'accablant lui-même des épithètes les plus dures. Il mit en pièces et la fille, et la mère, et le père, et les tantes, et toute la famille qu'il me montra comme un ramas de canailles indignes de moi, mais bien dignes de lui. Ce sont ses propres mots. Et voilà pourquoi je conseille aux femmes de ne jamais coucher avec des gens qui s'énivrent. Je ne méprise guère moins votre chevalier pour son indiscrétion en amour que pour sa perfidie en amitié. Que diable ! Il n'avait qu'à être un honnête homme et vous parler d'abord. Mais tenez, monsieur, je persiste, c'est un gueux, c'est un fiéfé gueux. Je ne sais plus comment cela finira. J'ai peur qu'il ne vous trompe encore en vous détrompant. Tirez-moi, tirez-vous bien vite vous-même de cette auberge et de la compagnie de cet homme-là. » Ici, Jacques reprit sa gourde, oubliant qu'il n'y avait ni tisane ni vin. Son maître se mit à rire. Jacques toussa un demi-quart d'heure de suite. Son maître tira sa montre et sa tabatière et continua son histoire que j'interromprais, si cela vous convient, ne fût-ce que pour faire enrager Jacques en lui prouvant qu'il n'était pas écrit là-haut, comme il le croyait, qu'il serait toujours interrompu et que son maître ne le serait jamais. Le maître au chevalier. Après ce que vous m'en dites là, j'espère que vous ne les reverrez plus.
Moi, les revoir ? Mais ce qui me désespère, c'est de s'en aller sans se venger. On aura trahi, joué, bafoué, dépouillé un galant homme. On aura abusé de la passion et de la faiblesse d'un autre galant homme, car j'ose encore me regarder comme tel, pour l'engager dans une suite d'horreurs. On aurait exposé deux amis à se haïr et peut-être à s'entr'égorger, car enfin, mon cher, convenez que, si vous eussiez découvert mon indigne menée, vous êtes brave, vous en eussiez peut-être conçu un tel ressentiment.
Non, cela n'aurait pas été jusque-là. Et pourquoi donc ? Et pour qui ? Pour une faute que personne ne saurait se répondre de ne pas commettre ? Est-ce ma femme ? Et quand elle le serait, est-ce ma fille ? Non, c'est une petite gueuse. Et vous croyez que pour une petite gueuse ? Allons, mon ami, laissons cela et buvons. Agathe est jeune, vive, blanche, grasse, potelée. Ce sont les chairs les plus fermes, n'est-ce pas ? Et la peau la plus douce. La jouissance en doit être délicieuse. Et j'imagine que vous étiez assez heureux entre ses bras pour ne guère penser à vos amis.
Il est certain que si les charmes de la personne et le plaisir pouvaient atténuer la faute, personne sous le ciel ne serait moins coupable que moi.
Ah ça, chevalier, je reviens sur mes pas. Je retire mon indulgence. Et je veux mettre une condition à l'oubli de votre trahison.
Parlez, mon ami, ordonnez, dites. Faut-il me jeter par la fenêtre, me pendre, me noyer, m'enfoncer ce couteau dans la poitrine ?
Et à l'instant, le chevalier saisit un couteau qui était sur la table, détache son col, écarte sa chemise et, les yeux égarés, se place la pointe du couteau de la main droite à la fossette de la clavicule gauche et semble n'attendre que mon ordre pour s'expédier à l'antique. « Il ne s'agit pas de cela, chevalier. Laissez là ce mauvais couteau. »«
Je ne le quitte pas. C'est ce que je mérite. Faites signe. »«
Laissez là ce mauvais couteau, vous dis-je. Je ne mets pas votre expiation à si haut prix. » Cependant, la pointe du couteau était toujours suspendue sur la fossette de la clavicule gauche. Je lui saisis la main. Je lui arrachai son couteau que je jetai loin de moi. Puis, approchant la bouteille de son verre et versant plein, je lui dis « Buvons d'abord, et vous saurez ensuite à quelles terribles conditions j'attache votre pardon. Agathe est donc bien succulente, bien voluptueuse.
Ah, mon ami, que ne le savez-vous comme moi ?
Mais attends, il faut qu'on nous apporte une bouteille de champagne, et puis tu me feras l'histoire d'une de tes nuits. Traître charmant, ton absolution est à la fin de cette histoire. Allons, commence. Est-ce que tu ne m'entends pas ?
Je vous entends.
Ma sentence te paraît-elle trop dure ?
Non.
Tu rêves ?
Je rêve.
Que t'ai-je demandé ?
Le récit d'une de mes nuits avec Agathe.
C'est cela. Cependant, le chevalier me mesurait de la tête aux pieds et se disait à lui-même : c'est la même taille, à peu près le même âge, et quand il y aurait quelque différence, point de lumière, l'imagination prévenue que c'est moi, elle ne soupçonnera rien. Mais, chevalier, à quoi penses-tu donc ? Ton verre reste plein et tu ne commences pas.
Je pense, mon ami, j'y ai pensé, tout est dit. Embrassez-moi, nous serons vengés. Oui, nous le serons. C'est une scélératesse de ma part. Si elle est indigne de moi, elle ne l'est pas de la petite coquine. Vous me demandez l'histoire d'une de mes nuits ?
Oui, est-ce trop exigé ?
Non, mais si, au lieu de l'histoire, je vous procurais la nuit ?
Cela vaudrait un peu mieux. Jacques se met à siffler. Aussitôt, le chevalier tire deux clés de sa poche, l'une petite et l'autre grande.
« La petite,
me dit-il,
est le passe-partout de la rue. La grande est celle de l'antichambre d'Agathe. Les voilà, elles sont toutes deux à votre service. Voici ma marche de tous les jours, depuis environ 6 mois. Vous y conformerez la vôtre. Ces fenêtres sont sur le devant, comme vous le savez. Je me promène dans la rue tant que je les vois éclairées. Un pot de basilic mis en dehors est le signal convenu. Alors je m'approche de la porte d'entrée, je l'ouvre, j'entre, je la referme, je monte le plus doucement que je peux, je tourne par le petit corridor qui est à droite, la première porte à gauche dans ce corridor est la sienne, comme vous savez. J'ouvre cette porte avec cette grande clé. Je passe dans la petite garde-robe qui est à droite. Là, je trouve une petite bougie de nuit à la lueur de laquelle je me déshabille à mon aise. Agathe laisse la porte de sa chambre entrouverte. Je passe et je vais la trouver dans son lit. Comprenez-vous cela ?
Fort bien.
Comme nous sommes entourés, nous nous taisons.
Et puis, je crois que vous avez mieux à faire que de jaser.
En cas d'accident, je puis sauter de son lit et me renfermer dans la garde-robe. Cela n'est pourtant jamais arrivé. Notre usage ordinaire est de nous séparer sur les 4 heures du matin. Lorsque le plaisir ou le repos nous mène plus loin, nous sortons du lit ensemble. Elle descend, moi je reste dans la garde-robe. Je m'habille, je lis, je me repose. J'attends qu'il soit heure de paraître. Je descends, je salue, j'embrasse comme si je ne faisais que d'arriver.
Cette nuit-ci, vous attend-on ?
On m'attend toutes les nuits.
Et vous me céderiez votre place ?
De tout mon cœur. Que vous préfériez la nuit au récit, je n'en suis pas en peine. Mais ce que je désirerais, c'est que...
Achevez, il y a peu de choses que je ne me sente le courage d'entreprendre pour vous obliger.
C'est que vous restassiez entre ses bras jusqu'au jour. J'arriverai, je vous surprendrai.
Oh non, chevalier, cela serait trop méchant.
Trop méchant ? Je ne le suis pas tant que vous pensez. Auparavant, je me déshabillerais dans la garde-robe.
Allons, chevalier, vous avez le diable au corps. Et puis, cela ne se peut. Si vous me donnez les clés, vous ne les aurez plus.
Ah, mon ami, que tu es bête !
Mais pas trop, ce me semble.
Et pourquoi n'entrerions-nous pas tous les deux ensemble ? Vous iriez trouver Agathe. Moi, je resterai dans la garde-robe jusqu'à ce que vous fissiez un signal dont nous conviendrions.
Ma foi, cela est si plaisant, si fou, que peu s'en faut que je n'y consente. Mais, chevalier, tout bien considéré, j'aimerais mieux réserver cette facétie pour quelqu'une des nuits suivantes.
Ah, j'entends. Votre projet est de nous venger plus d'une fois.
Si vous l'agréez.
Tout à fait.
Votre chevalier bouleverse toutes mes idées. J'imaginais...
Tu imaginais ?
Non, monsieur, vous pouvez continuer.
Nous bûmes, nous dîmes sans folie, et sur la nuit qui s'approchait, et sur les suivantes, et sur celle où Agathe se trouverait entre le chevalier et moi. Le chevalier était redevenu d'une gaieté charmante, et le texte de notre conversation n'était pas triste. Il me prescrivait des préceptes de conduite nocturne qui n'étaient pas tous également faciles à suivre. Mais après une longue suite de nuits bien employées, je pouvais soutenir l'honneur du chevalier à ma première, quelque merveilleux qu'il se prétendît, et ce furent des détails qui ne finissaient point sur les talents, perfections, commodités d'Agathe. Le chevalier ajoutait, avec un art incroyable, l'ivresse de la passion à celle du vin. Le moment de l'aventure ou de la vengeance nous paraissait arriver lentement, cependant nous sortîmes de table. Le chevalier paya. C'est la première fois que cela lui arrivait. Nous montâmes dans notre voiture. Nous étions ivres. Notre cocher et nos valets l'étaient encore plus que nous. Lecteur, qui m'empêcherait de jeter ici le cocher, les chevaux, la voiture, les maîtres et les valets dans une fondrière? Si la fondrière vous fait peur, qui m'empêcherait de les amener sains et saufs dans la ville, où j'accrocherais leur voiture à une autre dans laquelle je renfermerais d'autres jeunes gens ivres? Il y aurait des mots offensants de dit, une querelle, des épées tirées, une bagarre dans toutes les règles. Qui m'empêcherait, si vous n'aimez pas les bagarres, de substituer à ces jeunes gens Mademoiselle Agathe avec une de ses tantes? Mais il n'y eut rien de tout cela. Le chevalier et le maître de Jacques arrivèrent à Paris. Celui-ci prit les vêtements du chevalier. Il est minuit. Ils sont sous les fenêtres d'Agathe. La lumière s'éteint. Le pot de basilic est à sa place. Ils font encore un tour d'un bout à l'autre de la rue, le chevalier recordant à son ami sa leçon. Ils approchent de la porte, le chevalier l'ouvre, introduit le maître de Jacques, garde le passe-partout de la rue, lui donne la clé du corridor, referme la porte d'entrée, s'éloigne, et, après ce petit détail fait avec laconisme, le maître de Jacques reprit la parole et dit « Le local m'était connu. Je monte sur la pointe des pieds. J'ouvre la porte du corridor, je la referme. J'entre dans la garde-robe, où je trouvais la petite lampe de nuit. Je me déshabille. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je passe. Je vais à l'alcôve, où Agathe ne dormait pas. J'ouvre les rideaux, et à l'instant je sens deux bras nus se jeter autour de moi et m'attirer. Je me laisse aller, je me couche, je suis accablé de caresses, je les rends. Me voilà le mortel le plus heureux qu'il y ait au monde. Je le suis encore lorsque... » Lorsque le maître de Jacques s'aperçut que Jacques dormait ou faisait semblant de dormir. « Tu dors ?» lui dit-il. « Tu dors, ma roufle, au moment le plus intéressant de mon histoire !» Et c'est à ce moment même que Jacques attendait son maître. Te réveilleras-tu ?
Je ne le crois pas.
Et pourquoi ?
C'est que, si je me réveille, mon mal de gorge pourra bien se réveiller aussi, et que je pense qu'il vaut mieux que nous reposions tous deux.
Et voilà Jacques qui laisse tomber sa tête en devant. Tu vas te rompre le cou.
Sûrement, si cela est écrit là-haut. N'êtes-vous pas entre les bras de Mademoiselle Agathe ?
Oui.
Ne vous y trouvez-vous pas bien ?
Fort bien.
« Restez-y. »«
Que j'y reste, cela te plaît à dire. »«
Du moins jusqu'à ce que je sache l'histoire de l'emplâtre de Desglans. »«
Tu te venges, traître. »«
Et quand cela serait, mon maître, après avoir coupé l'histoire de mes amours par mille questions, par autant de fantaisies, sans le moindre murmure de ma part, ne pourrais-je pas vous supplier d'interrompre la vôtre pour m'apprendre l'histoire de l'emplâtre de ce bon Desglans à qui j'ai tant d'obligations ?» qui m'a tiré de chez le chirurgien au moment où, manquant d'argent, je ne savais plus que devenir, et chez qui j'ai fait connaissance avec Denise, Denise sans laquelle je ne vous aurais pas dit un mot de tout ce voyage. Mon maître, mon cher maître, l'histoire de l'emplâtre de Desglans. Vous serez si court qu'il vous plaira, et cependant l'assoupissement qui me tient, et dont je ne suis pas maître, se dissipera et vous pourrez compter sur toute mon attention.
le maître dit en haussant les épaules. Il y avait dans le voisinage de Desglans une veuve charmante qui avait plusieurs qualités communes avec une célèbre courtisane du siècle passé. Sage par raison, libertine par tempérament, se désolant le lendemain de la sottise de la veille, elle a passé toute sa vie en allant du plaisir au remords et du remords au plaisir, sans que l'habitude du plaisir ait étouffé le remords, sans que l'habitude du remords ait étouffé le goût du plaisir. Je l'ai connue dans ses derniers instants. Elle disait qu'enfin, elle échappait à deux grands ennemis. Son mari, indulgent pour le seul défaut qu'il eut à lui reprocher, la plaignit pendant qu'elle vécut et la regretta longtemps après sa mort. Il prétendait qu'il eût été aussi ridicule à lui d'empêcher sa femme d'aimer que de l'empêcher de boire. Il lui pardonnait la multitude de ses conquêtes en faveur du choix délicat qu'elle y mettait. Elle n'accepta jamais l'hommage d'un sot ou d'un méchant. Ses faveurs furent toujours la récompense du talent ou de la probité. Dire d'un homme qu'il était ou qu'il avait été son amant, c'était assurer qu'il était homme de mérite. Comme elle connaissait sa légèreté, elle ne s'engageait point à être fidèle. « Je n'ai fait, disait-elle, qu'un faux serment en ma vie, c'est le premier. Soit qu'on perdît le sentiment qu'on avait pris pour elle, soit qu'elle perdît celui qu'on lui avait inspiré, on restait son ami. Jamais il n'y eut d'exemple plus frappant de la différence de la probité et des mœurs. On ne pouvait pas dire qu'elle eût des mœurs, et l'on avouait qu'il était difficile de trouver une plus honnête créature. Son curé la voyait rarement au pied des autels, mais en tout temps, il trouvait sa bourse ouverte pour les pauvres. Elle disait plaisamment de la religion et des lois que c'était une paire de béquilles qu'il ne fallait pas ôter à ceux qui avaient les jambes faibles. Les femmes qui redoutaient son commerce pour leurs maris le désiraient pour leurs enfants.